Comme on l'évoquait un petit peu avant l'entretien, en fait, cette partie elle va être plutôt consacrée à ton appréciation de l'évolution en fait du métier. Une des questions qu'on a envie de te poser, alors on sent que tu es très animé hein, quand tu expliques les choses, et c'est vraiment très agréable. Donc on sent qu'il y a encore une flamme, il y a encore une passion. Est-ce que aujourd'hui, si tu devais te lancer dans une carrière scientifique, est-ce que tu le ferais? Ou est-ce que tu y réfléchirais à deux fois? Est-ce que tu as conservé cette même envie, cette même passion?
Oui, elle est intacte. Elle est absolument. Hein, c'est une passion, mais je crois que c'est vrai. Ça s'éteint difficilement, cette flamme-là. Hein. On en voit quand même des collègues, mais la plupart des collègues sont comme nous. Hein. On garde cette flamme au fond de nous parce que c'est à condition de se mettre en danger. Ça, c'est vraiment pour moi. Hein, ça, c'est mon caractère. Mais je crois que c'est aussi un peu une condition, un prérequis indispensable à la recherche. Il faut se mettre en danger. Il faut se confronter. D'abord, mettre la barre très haut, toujours, en sachant où on se situe en mettant la barre très haut. Pas se croire au-dessus de la barre. Ça, l'humilité et la modestie est une grande qualité. Pas une grande qualité, c'est indispensable aussi. Savoir où on se situe, mais sans arrêt aller chercher sur les chemins de traverse. Et ça, c'est un point essentiel pour moi. C'est d'aller voir. Je dis pas qu'il faut que tout le monde doit faire ça, mais se mettre en danger pour moi, c'est pas seulement présenter ses travaux aux plus grands spécialistes du domaine dans le monde, mais c'est aussi aller voir ce qui se passe à côté. C'est aussi aller voir dans les autres disciplines, qu'est-ce que je peux comprendre de cette discipline-là. Et ça, c'est une façon de se dire, on se découvre tout petit là-dedans. Hein, on découvre des mondes. Ça, c'est un point qui est essentiel.
Oui, et ça, c'est un point que j'ai remarqué parce que tu fais partie des... Enfin, je dirais presque des rares linguistes que je connais, j'en connais quand même pas mal, qui connaissent autant de choses sur les potentiels évoqués, qui est la méthode que moi j'utilise pour étudier les phénomènes linguistiques. Et je pense que tu as vraiment quand même une bonne compréhension des avantages, des inconvénients, des limites de cette méthode.
Mais ça, c'est grâce à toi. C'est grâce à l'ILCB, mais bien sûr, oui. C'est grâce à l'ILCB, oui. Grâce aux collègues qui nous ont expliqué ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait apprendre grâce à ça. Et nous, on espère que réciproquement aussi, en posant les questions qu'on pose, eh bien, on bouscule un peu ce genre. Cette question, tu parlais de l'évolution du métier de chercheur. La flamme, elle est intacte. Tu l'as vu. Et oui, mille fois oui, je recommencerai. C'est un parcours du combattant, c'est une horreur au début. J'ai l'impression que c'était plus facile avant pour nous d'intégrer la recherche. C'était plus facile, il y avait moins de concurrence, il y avait plus de postes. Donc ça, c'est un premier vrai problème. Il y a un gâchis considérable des jeunes aujourd'hui, quoi, qui arrivent, qui passent leur doctorat, qui vont faire des post-docs, et qui, de post-doc en post-doc, qui arrivent avec certains qui enchaînent 10 ans de post-doc et qui se retrouvent sans rien à 40 ans. C'est un gâchis considérable. Je ne sais pas, il faudrait que je voie ça, mais moi, j'ai l'impression que c'était plus facile avant. Je recommencerai, oui, bien sûr, oui. Je recommencerai. Et comment je vois l'évolution ?
Malgré des conditions dont tu reconnais qu'elles sont vraiment très mauvaises. Enfin, alors, quand on voit le nombre de postes au CNRS, quand on voit le nombre de postes à l'université, il y a quand même de quoi être déprimé, non ?
Il n'y a pas que ça, hein, c'est pire que ça, mais on le sait bien. Hein, c'est le pilotage de la recherche aussi, oui, la recherche aussi. Sur projet systématiquement, le manque de financement. Nous, quand on a commencé notre carrière, on arrivait avec un projet, on proposait un projet au CNRS. Aujourd'hui, c'est un peu un leurre. Hein. Un jeune qui arrive avec son projet au CNRS, il est recruté au CNRS, mais son projet, il a toutes les chances de ne pas le faire. Il va devoir se conforter à cause des appels à projets, des trucs comme ça, pour financer ses recherches. Il va devoir considérablement le modifier, son projet. Moi, j'étais arrivé avec mon projet et je l'ai fait. Et à ce moment-là, on pouvait le faire. On avait cette liberté académique, cette liberté individuelle qui est aujourd'hui battue en brèche quand même à cause du système de financement de la recherche. À cause des postes, bien sûr, de la concurrence. Il faut être dans le mainstream. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des postes. Et ensuite, une fois qu'on a des postes, il faut, pour pouvoir financer, rester dans le mainstream. Quoi. On a beau dire, l'ANR a beau trépigner et répéter, dire qu'ils prennent des risques, ils n'en prennent jamais. L'Europe ne prend pas de risques. L'Europe, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est bien du fait que on a un pilotage de la recherche sans politique scientifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision stratégique nationale ou même internationale. L'Europe aligne une série de mots-clés, la stratégie européenne de recherche, qui est la stratégie française nationale de la recherche et d'innovation est un copier-coller de la stratégie européenne. Et la stratégie locale, d'ailleurs, la stratégie régionale est un copier-coller de la stratégie nationale qui est la même, etc. Et tout ça formate les choses de façon détestable. Malgré ça, je pense que quand même, la recherche offre des perspectives, c'est une excitation intellectuelle permanente. Quoi.
Et une liberté intellectuelle.
Une liberté intellectuelle, absolument, et de découverte et de redécouverte. Il y a un point qui est essentiel dans l'évolution pour moi, et ça je crois que c'est dans les années 90, on va dire, c'est l'interdisciplinarité. Alors, encore une fois, ça a été un tarte à la crème, on a fait des grands projets financés, on a dit tout et n'importe quoi avec ça. Mais la vraie interdisciplinarité pour moi, c'est aussi celle, on parle de l'ILCB, mais c'est aussi celle qu'on fait. C'est pas simplement ce que je disais tout à l'heure, utiliser l'informatique pour traiter un problème de neuro, c'est voir si on est capable de s'apporter, de s'apprendre quelque chose. Les réseaux, par exemple, réseau neurones artificiels, réseau neurones biologiques, qu'est-ce que ça nous apprend? Et ça, c'est l'interdisciplinarité, elle est là. Dans le langage, c'est pareil. L'étude du langage informatique et linguistique, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure. C'est vraiment... Ça, c'est un pas décisif, l'interdisciplinarité, hein, qu'on a franchi dans les années 90, qui a commencé à être vraiment ça. Il y a eu un petit point, mais ça peut-être que j'anticipe les questions, je ne sais pas, mais oui, il y a d'autres aspects dans l'évolution du métier, mais bon.
Et justement, alors je rebondis sur l'interdisciplinarité. Donc clairement, toi, ta vision de l'interdisciplinarité, c'est intégrer au niveau individuel dans sa pratique éventuellement des questionnements, des outils méthodologiques qui sont propres à d'autres disciplines.
Absolument.
Plutôt que le rapprochement qui peut paraître un petit peu artificiel de différentes personnes issues de champs disciplinaires différents qui collaboreraient dans un même projet.
Alors, c'est la différence essentielle que je fais, qu'on doit faire, mais qui est malheureusement pas souvent faite, entre interdisciplinarité et pluridisciplinarité. C'est vraiment, vraiment pas la même chose. L'interdisciplinarité, c'est compliqué, c'est justement, on parlait de modèles, il faut que les modèles tirent parti de l'ensemble des disciplines qu'on interroge pour faire ça. Alors, l'interdisciplinarité, c'est, lorsqu'on la pratique, ça repose, mais ça, j'en suis aussi convaincu, sur l'ancrage disciplinaire. Il n'y a pas de personne, je ne crois pas du tout à un génie qui soit à la fois un génie en informatique, en neurosciences et en linguistique. C'est pas possible. On a bien sûr des génies quelque part, c'est rare, mais c'est rare. Donc il faut avoir cet ancrage disciplinaire. Et d'ailleurs, dans une des très belles réalisations de l'ILCB, qui est le master de sciences cognitives, on a toujours insisté là-dessus. Gardez votre ancrage disciplinaire. Vous arrivez, vous êtes informaticien, vous devez sortir informaticien tout en ayant acquis cette question des sciences cognitives. Donc l'ancrage disciplinaire est important, mais aller chercher, essayer de comprendre ce qui se passe à côté, c'est aller discuter avec les spécialistes, pas réinventer la roue. Ça, c'est aussi le second écueil de l'interdisciplinarité. Parce que bien souvent, ce qu'on a pu constater, et alors c'est vrai pour toutes les disciplines, je titille un peu mes collègues en neurosciences computationnelles, qui ont bien souvent eu tendance à réinventer la roue, à réinventer le machine learning, et en oubliant qu'à côté, dans la porte à côté, au labo d'à côté, il y avait des spécialistes de ça. Et réciproquement, les collègues en machine learning prétendent pouvoir tout faire. Alors, ils s'en fichent un peu des données. Ils disent, donnez-moi n'importe quelle donnée, mais moi, je vous trouverai la solution. Sauf que non, c'est pas ça. La question de la science des données désormais nous apprend que les données, il faut comprendre comment elles sont faites, comment elles sont structurées, et ça, comment le faire, si ce n'est avec les spécialistes qui produisent ces données-là, qui les comprennent, qui savent comment elles sont organisées. Donc l'interdisciplinarité, c'est ça, c'est aller discuter avec les spécialistes, et ça, justement, il faut accepter, je le disais tout à l'heure, de se mettre en danger, parce qu'aller discuter avec quelqu'un qui est spécialiste en machine learning, pour un linguiste, c'est compliqué.
Donc ça, c'est l'interdisciplinarité. Et ouais. la pluridisciplinarité, alors ?
C'est par exemple utiliser un algo de machine learning sans savoir ce qu'il fait pour générer D'accord. un modèle et sans tenter d'aller plus loin, sans tenter d'aller justement dans ce que je dis, dans la compréhension des données et pourquoi tel algo de machine learning plutôt que tel autre. Ça, c'est un point essentiel. Et puis aller aussi sur cette question, encore une fois, on prend entre neuro et info. C'est très clair. Les réseaux de neurones qui existent depuis des décennies, ça a été une métaphore pendant très longtemps. Et une simple métaphore. C'est rien d'autre qu'une métaphore. Sauf qu'aujourd'hui, on en arrive avec le développement, justement, parce que les premiers réseaux de neurones, c'était d'une simplicité. Je veux dire, il était, les collègues qui disaient que ça nous expliquait quelque chose sur le cerveau, c'était un peu audacieux, on va dire. Ouais. Donc, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Sauf que cette métaphore-là a été productive au point qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose de, une vraie question scientifique. Qu'est-ce que ça nous apprend? Et est-ce que finalement, parce qu'on a fait évidemment des progrès énormes dans le, du côté de la connaissance des réseaux biologiques, du fonctionnement du cerveau, et également dans le même temps des réseaux de neurones artificiels, là désormais qui sont capables de modéliser des phénomènes extrêmement, extrêmement fins, et donc qui sont capables de descendre justement au niveau. Et donc là, quand on est capable de faire ça, cette question de l'organisation en couches, par exemple, eh bien ça interpelle aussi en neurosciences, ça interpelle aussi les structures cérébrales et ça interpelle aussi la façon qu'ont toutes ces couches-là de dialoguer les unes avec les autres.
Mais ça c'est par construction dans les modèles que c'est en couches, non ?
Oui.
C'est
oui,
pas eux qui ont choisi de s'organiser en couches.
C'est pas eux qui ont choisi de s'organiser en couches. Tu as raison. Mais oui, tu as raison. Mais juste, je veux dire un truc, c'est sur l'interdisciplinarité, ça devient intéressant lorsque l'un apporte quelque chose à l'autre. Et dans les deux sens, et ça se fait dans les deux sens. Et là, sur les réseaux, c'est vraiment comme ça que ça avance aujourd'hui. Hein, cette exigence de l'interprétabilité des réseaux, ça n'intéresse pas un neuroscientifique désormais d'avoir un réseau qui simule simplement. Mais on veut comprendre ce qui se passe derrière. On veut comprendre pas seulement les poids des neurones, à régler les poids des neurones. Ça peut se faire tout seul, mais pourquoi quoi.
Tout à fait. Ça, c'est une question fascinante aussi. Tout à fait. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Là, on repartait sur les modèles et on pourrait rediscuter de l'importance du machine learning et tout ça. Mais je pense que c'était vraiment très intéressant et tout à fait dans l'optique qu'on a de faire un peu une vue d'ensemble de la carrière d'un chercheur. Et merci beaucoup d'avoir participé, Philippe.
Bien, merci à vous. C'est l'occasion aussi pour moi, pour nous, pour tous ceux qui vont me succéder là, de faire un point un peu sur... On n'ose pas le faire, hein. Les années passent. Non, mais c'est génial. On découvre des trucs. C'est bien. Merci.